Chapitre 57. Un orage sur la tierce terre. Le soleil brûlant de l'après-midi martelait impitoyablement le désert des Aïels, envoyant des ombres sur les montagnes qui se dressaient au nord, soit juste devant la colonne. Sous les sabots de Djadéen, la terre desséchée et craquelée évoquait une sorte d'océan solide, une étendue infinie dont d'innombrables lieux se déroulaient désormais derrière Rand et ses compagnons. Depuis qu'elle lui était apparue, la veille, les montagnes fascinaient le jeune homme. Avec leurs pics dépourvus de neige, elles étaient moins hautes que les montagnes de la brume et beaucoup plus basses que le plus petit mont de la colonne vertébrale du monde. Pourtant, leurs silhouettes déchiquetées, avec une multitude de flèches rocheuses gris veinées de jaune, de rouge ou de bandes brillantes, invitaient si peu au voyage que tout homme sensé aurait préféré s'attaquer au mur du dragon plutôt qu'à cette chaîne-là. Rand rectifia sa position sur sa selle, s'autorisa un soupir, et ajusta le choufa qu'il portait en même temps que sa veste rouge. Al-Qaïrdal était niché au cœur de ces montagnes. Bientôt, certaines choses toucheraient à leur terme, à moins qu'il s'agisse au contraire d'un commencement. Ou des deux à la fois. Bientôt, peut-être. La blonde Adeline marchait sans peine devant l'étalon tacheté de Rand. 9 autres phares d'Arei Smaï, à la potanée par le soleil, l'entouraient, brandissant leurs lances et leurs rondaches. Un arc accroché dans le dos, leur voile noire prêt à être relevée, ces guerrières composaient la garde d'honneur de Rand. Si les Aïels n'utilisaient pas ce nom, les promises allaient bel et bien à Al-Qaïrdal pour l'honneur du jeune homme. Tant de différence entre ce peuple et lui. Même quand elle lui crevait les yeux, cette différence, il restait aveugle et sourd à leur sens profond. Par exemple, que signifiait le comportement d'Avienda vis-à-vis des promises? Et la façon d'agir de ces dernières face à la jeune femme? La plupart du temps, elle marchait à côté de Djadéen, les bras croisés sous le châle drapé sur ses épaules. Ses yeux verts rivés sur les montagnes, elle parlait très rarement aux promises, et jamais pour leur dire plus d'un ou deux mots. Mais la bizarrerie n'était pas là. Les bras croisés, voilà ce qui troublait Rand. Les promises savaient qu'elle portait le bracelet d'ivoire, mais elle faisait semblant de ne pas le voir. Alors pourquoi le cacher? Si elle ne voulait pas le retirer, pourquoi Avienda dissimulait-elle son poignet dès qu'elle pensait qu'une promise la regardait?
« Tu n'appartiens pas à un ordre guerrier »,
avait répondu Adeline quand il avait suggéré que d'autres aïels que les promises lui tiennent lieu d'escorte. Pour la réunion, tous les chefs de tribus ou de clans seraient accompagnés par des membres de l'ordre guerrier d'où ils étaient issus.
« Tu n'appartiens pas à un ordre guerrier, mais ta mère était une promise. »
En disant ces mots, Adeline, comme ses 9 compagnes, n'avait délibérément pas regardé Avienda, qui attendait à quelques pas de là dans l'entrée du toit de Liane.
« Depuis d'innombrables années, les promises qui refusent de renoncer à la lance confient leurs enfants au matriarche, qui leur choisissent une mère adoptive. Une promise ne sait jamais si son enfant est une fille ou un garçon, et elle ignore à quel endroit il vit. Le fils d'une promise est revenu vers nous, et nous savons qui il est. Nous irons à Al-Qaïrdal pour ton honneur, fils de Chayel, une promise du clan Chumaï des Tahardad. »
Devant la détermination d'Adeline, des 9 autres promises et même d'Avienda, Rand s'était demandé si ces femmes ne risquaient pas de le défier chacune en duel s'il refusait. Lorsqu'il eut accepté, les guerrières l'avaient de nouveau soumis au rituel des libations. Cette fois, il avait dû vider 10 petites coupes d'une boisson à base de zémaï appelée ouskaï. 10 promises, 10 coupes. Pas question d'y échapper. Ressemblant à de l'eau teintée d'ocre, la boisson avait un vague goût de vase et elle était plus forte que l'eau de vie distillée 2 fois. Au terme du rituel, Rand ne marchait plus droit et les promises, en se moquant de lui, l'avaient accompagné jusqu'à son lit. Bien entendu, il avait tenté de protester. Mais quand 10 femmes déchaînées vous chatouillaient, comment pouvait-on se faire prendre au sérieux? En tout cas, Avienda n'avait pas trouvé drôle ce numéro. Le visage de marbre, elle était restée tout du long, s'asseyant au bord du lit après le départ de ses anciennes collègues. En silence, elle avait regardé le jeune homme sombrer dans un sommeil d'ivrogne. À son réveil, il l'avait retrouvé au même endroit, renfrogné au point de ne pas vouloir parler des promises, de l'ouskaï, ou d'aucun autre sujet relatif aux événements de la veille. Comme s'il ne s'était jamais produit, en fait. Les promises auraient-elles adopté le même comportement? Rand l'ignorait, et il se voyait mal à aller demander à 10 femmes pourquoi elle l'avait saoulé, s'amusant ensuite à le déshabiller et à le mettre au lit. Tant de différences, et si peu dont il comprenait le sens. Sans parler de celles qui pouvaient saboter son plan sans même qu'il sache pourquoi. Rand jeta un coup d'œil derrière lui. Pleurer sur le lait renversé n'avait jamais servi à grand-chose. À bonne distance, les Tahardad le suivaient. Pas seulement ceux des 9 vallées, pas seulement les Jindo, mais aussi les Miyadi, le clan des quatre pierres, les Chumai, le clan de l'eau sanglante et beaucoup d'autres. Une énorme colonne qui flanquait la caravane des colporteurs et la petite expédition des matriarches. Un serpent humain qui mesurait une demi-lieue de long, des éclaireurs lui ouvrant la marche tandis que des messagers assuraient la communication entre le premier rang et la très lointaine arrière-garde. Chaque jour, répondant aux messages envoyés par Rouark, de nouveaux aïels se joignaient à la procession. Une centaine de guerriers et de promises le matin, 300 l'après-midi, 500 le soir. Le nombre dépendait de l'importance du clan et de la garnison nécessaire pour assurer la sécurité de sa forteresse d'origine. Dans le lointain, au sud-ouest, un autre groupe approchait à vive allure, soulevant une impressionnante colonne de poussière. Une autre tribu en route pour Al-Kayerdal? C'était possible, mais Rand en doutait. Les deux tiers des clans étaient représentés jusqu'à maintenant, mais ça signifiait quand même que 15 000 Aielta Ardad le suivaient. Une armée en marche, et dont les rangs grossissaient sans cesse. Une tribu entière, à quelque chose près, qui se rendait à une réunion de chefs, en violation de toutes les coutumes. Il n'était même pas utile de le préciser. Jadn arriva au sommet d'une butte. En bas, dans une grande et large cuvette, on avait installé la kermesse qui accompagnerait la réunion. Sur les collines environnantes, Rand découvrit les camps des chefs de tribus et de clans déjà présents sur les lieux. Dans la cuvette, au milieu de 200 ou 300 tentes basses sans côté, se dressaient des pavillons taillés dans la même toile et assez grands pour contenir chacun plusieurs des plus petites tentes. À leur ombre, des marchandises étaient exposées sur des couvertures, des poteries brillantes, des tapis encore plus étincelants et des bijoux d'or ou d'argent. Pour l'essentiel, des produits de l'artisanat aïel. Mais il y aurait aussi des merveilles venues des pays environnants et, avec un peu de chance, des soieries et des objets en ivoire originaires de très lointaines terres orientales. Pour l'instant, personne ne commerçait, les rares aïels ou aïele visibles étant assis sous l'un ou l'autre des pavillons. La plupart du temps seuls, nota Rand. Sur les 5 camps éparpillés autour de la kermesse, 4 semblaient tout aussi déserts, puisqu'une poignée de guerriers et de promises évoluait entre les tentes capables d'abriter un bon millier de personnes. Le 5e, 2 fois plus grand, grouillait de monde à l'extérieur, et probablement aussi sous les tentes. Derrière Rand, Rouark finissait de gravir la colline avec ses 10 boucliers rouges, des haïtan d'or sur les talons. Heirn le suivait, escorté par 10 fidèles, des Taïn Shari dans leur langue d'origine. Une bonne quarantaine de chefs de clan, avec chacun une escorte d'honneur et 10 guerriers armés jusqu'aux dents, avançaient dans le sillage du dragon réincarné. Une force impressionnante et bien supérieure à celle qui avait conquis la pierre de Théar. Dans la cuvette comme dans les camps, des aïels regardaient le sommet de la butte où les délégations apparaissaient les unes après les autres. Mais seul le cavalier solitaire intéressait ses curieux. Rien de plus normal, puisque c'était un spectacle exceptionnel dans la tierce terre. Mais avant que tout ça se termine, Rand allait encore plus d'une fois leur dessiller les yeux. Rouark s'immobilisa à côté de Rand, le regard rivé sur le grand camp où toujours plus d'aïels en cadinsor émergeaient des tentes pour venir scruter le sommet de la butte.
« Des Shaido, sauf erreur de ma part. Kouladin. Randaltor, tu n'es pas le seul à violer les coutumes. »
J'ai probablement eu raison de le faire,
souffla Rand. Retirant le choufa enroulé autour de sa tête, il le rangea dans la poche de sa veste où se trouvait déjà un angréal, une figurine représentant un homme au visage rond, une épée sur les genoux. Sans le choufa, le soleil commença à faire frire sa tête nue, histoire de souligner à quel point l'accessoire vestimentaire était une protection efficace.
Si nous avions respecté les coutumes,
les Shaido couraient tous en direction des montagnes, laissant derrière eux des tentes apparemment vides. Dans la cuvette et dans les autres camps, ce comportement éveilla une grande perplexité. Curieux, les aïels cessèrent de regarder le cavalier solitaire pour s'intéresser aux Shaido.
À 2 contre 1. Aurais-tu réussi à nous faire entrer à Al-Kayerdal, Rouark? Et quand je dis 2 contre 1, je suis peut-être optimiste.
Pas avant la tombée de la nuit,
répondit le chef d'État Ardad.
Et même pas contre ces voleurs de chiens de Shaido. C'est plus grave que le non-respect des coutumes. Même les Shaido devraient avoir plus d'honneur que ça.
Les autres Tardad présents au sommet de la butte approuvèrent cette déclaration. À l'exception des promises, cependant. Réunis autour d'Avienda, un peu à l'écart, les guerrières étaient en grande conversation. Rouark dit quelques mots à un de ses boucliers rouges, un type aux yeux verts et au visage cabossé comme si on l'avait utilisé pour enfoncer les poteaux d'une clôture, qui dévala la butte et se hâta d'aller rejoindre le gros de la colonne.
« Tu t'y attendais, Rand ?»
demanda Rouark.
« C'est pour ça que tu as fait venir toute ta tribu ?»«
Pas exactement à ça, Rouark. »
Devant l'entrée d'un défilé, entre deux monts, les Shaido commençaient à former une ligne de défense et à se voiler.
Mais si Kouladin n'avait pas été très pressé, il ne serait pas parti en pleine nuit. Et où pouvait-il aller sinon ici, afin de me préparer une réception? Les autres sont-ils déjà ici? Pourquoi si vite?
Une réunion des chefs offre bien des occasions que nul ne veut manquer, Randaltor. On va en profiter pour discuter de frontières, de droits de pâturage et de dizaines d'autres choses. Dont l'eau, bien entendu. Quand deux aïels de deux tribus différentes se rencontrent, ils négocient au sujet de l'eau. Quand ils sont trois, ils ajoutent le pâturage.
Et quand ils sont quatre? Demanda Rand. Cinq tribus étaient déjà présentes. Les Tardad seraient la sixième. Appuyé à sa lance sans même s'en rendre compte, Rouark hésita un instant.
À quatre, ils dansent avec leur lance. Mais ça ne devrait pas arriver ici.
Les Tardad s'écartèrent pour laisser passer les matriarches, le châle enroulé autour de la tête, Moiraïn, Lan et Egwene les suivant à cheval. Imitant les aïels, Egwene et Lys Sedai portaient autour du crâne des carrés de tissu blanc humide. Matt apparut enfin, jouant délibérément les traînards. Sa lance à hampe noire en travers des genoux, il plissait les yeux sous les larges bords de son remarquable chapeau. Quand il vit les Shaido, Lan hocha lentement la tête.
« Oui, ça pourrait tourner mal, » souffla-t-il.
L'étalon noir du champion coula un regard mauvais à Jaden. Si concentré qu'il fût sur les Shaido, Lan s'en aperçut et flatta l'encolure de Mandarbe.
« Mais pas tout de suite. » « Non, pas maintenant, » confirma Rouark.
« Seulement tu m'autorisais à venir avec toi, »
murmura Moiraïn. Même si le verbe « autoriser » avait eu du mal à sortir, Lys Sedai parlait d'un ton serein, comme toujours. Un calme parfait s'affichait sur son visage intemporel. N'étaient ses yeux, rivés sur Rand comme s'il pouvait le contraindre à capituler.
« La décision ne lui revient pas, Aes Sedai, »
dit Amys.
« Cette réunion est l'affaire des chefs, une histoire d'hommes. Si nous te laissons y aller, la prochaine fois que les matriarches ou les maîtresses du toit voudront se réunir, un chef de clan se servira de ce précédent pour fourrer son nez dans des affaires de femmes. »
La matriarche sourit à Rouark, indiquant qu'elle ne le visait pas particulièrement. Le manque de réaction du chef des Tardad incita Rand à penser qu'il n'avait pas gobé le mensonge. Mélaine saisit son châle sous son menton et dévisagea Rand. Si elle n'était pas d'accord avec Moiraine, la matriarche se méfiait cependant au plus haut point de ce qu'il préparait. Depuis le départ des Rocs Froids, le jeune homme n'avait pratiquement pas dormi. Si les matriarches avaient épié son sommeil, elles auraient simplement eu accès à de brefs cauchemars.
« Sois très prudent, Randaltor, »
dit Beir, comme si elle avait lu les pensées du jeune homme.
« Un chef fatigué commet des erreurs, et tu ne peux pas te permettre ce luxe aujourd'hui. »
Tirant sur les pans de son châle, elle ajouta, curieusement agressive.
« Nous ne pouvons pas te le permettre. Les aïels le paieraient trop cher. »
L'arrivée d'autres cavaliers au sommet de la butte avait de nouveau attiré l'attention des aïels de la kermesse et des camps. Autour des pavillons, des centaines d'hommes en cadinsor et de femmes en jupe et chemisier, sans oublier l'inévitable châle, formaient une foule attentive. Les cavaliers perdirent tout intérêt aux yeux des aïels lorsque la roulotte blanche de Cadéré apparut à son tour au sommet de la butte. Vêtue d'une veste crème, l'imposant colporteur trônait sur le banc du conducteur. En robe de soie blanche, un parasol assorti à la main, Isandre lui tenait compagnie. La roulotte de Kaylé arriva quelques secondes plus tard, Nathael se chargeant des rênes à côté de sa compagne. Les chariots bâchés suivirent très peu de temps après, les citernes tirées par de très longs attelages de mules fermant la marche. Alors que les roulottes passaient devant Rand, leurs axes de roues mal graissés grinçant sinistrement, Cadéré et Isandre regardèrent intensément le jeune homme. Paradant dans sa cape multicolore de trou vert, Nathael les imita, et Kaylé aussi. Son énorme corps engoncé dans une robe blanche, la femme à la voix si mélodieuse, arborait une résille blanche sur ses cheveux tenus par des peignes d'ivoire. Rand flatta l'encolure de Jaden. Dans la cuvette, des hommes et des femmes s'éloignaient des pavillons pour aller à la rencontre des colporteurs. Les Shaido, eux, attendaient toujours. Mais ils n'auraient plus très longtemps à patienter. Egwene fit s'arrêter sa jument grise à côté de Jaden. L'étalon tacheté tenta de donner un petit coup de museau à Brume et récolta une petite morsure pour sa peine.
« Rand, »
dit Egwene,
« depuis le départ des Rocs Froids, tu ne m'as pas laissé une occasion de te parler. »
Rand ne répondit pas. La jeune femme était une Aes Sedai désormais, et pas seulement parce qu'elle revendiquait ce titre. Avait-elle aussi marché dans ses rêves? Les yeux cernés, elle semblait plutôt fatiguée.
« Ne te referme pas sur toi-même, Rand. Tu n'es pas seule. D'autres combattent avec toi. »
Se rembrunissant, Rand essaya de ne pas regarder son ancienne promise. Bien sûr, il pensait à Chandemonde et à Perrine.
mais il ne voyait pas comment Egwene aurait pu savoir où était parti leur ami d'enfance.
« Que veux-tu dire ?»
demanda finalement Rand.
« Je combats pour toi, »
répondit Moiraine, avant que sa jeune compagne pût ouvrir la bouche.
« Egwene aussi. »
Les deux femmes échangèrent un regard intense.
« Des gens luttent pour toi sans même le savoir, et tu ne les connais pas. Quand on te dit que tu modèles le lacis de notre âge, tu ne comprends pas ce que ça signifie, n'est-ce pas ? Les conséquences de tes actions, comme des ondulations dans l'eau. En fait, les ondulations de ta simple existence se répercutent à travers toute la trame pour modifier le tissage d'une multitude de vies dont tu n'as même pas conscience. La bataille ne concerne pas que toi, et de très loin, mais tu es au centre de ce tissage particulier, au cœur de la trame. Si tu échoues, tout le monde échouera. Et si tu t'écroules, tout le monde s'écroulera. Puisque je ne peux pas t'accompagner à Al-Qaïrdal, emmène l'âne avec toi. Une paire d'yeux supplémentaires pour surveiller tes arrières. »
Le champion tourna la tête et fronça les sourcils à l'intention de son Aes Sedai. Avec tous ses Shaido voilés pour tuer, il n'avait guère envie de la laisser sans protection. Rand aurait parié qu'il n'était pas censé avoir vu le regard échangé par les deux femmes. Ainsi, Moiraine et Egwene lui faisaient des cachotteries. Au fond, à bien la regarder, Egwene avait des yeux d'Aes Sedai, sombres et énigmatiques. Leur conversation terminée, Avienda et les promises étaient revenus près de leur protégé.
Laissez donc l'âne rester avec vous, Moiraine. Les phares d'Areismaï se chargeront de mon honneur.
Moiraine eut une moue amère. En revanche, les promises saluèrent cette déclaration par de grands sourires. Pour une fois, Rand n'avait pas commis d'impair. Dans la cuvette, les aïels s'étaient massés autour des conducteurs de chariots occupés à dételer les mules. Parmi les colporteurs, tout le monde ne se concentrait pas sur les guerriers du désert. Chacune debout à côté de sa roulotte, Keilé et Isandre se regardaient en chien de faïence. Alors que Nathael parlait nerveusement à sa compagne, Kadere faisait de même avec la sienne. Et ce petit jeu dura jusqu'à ce que les deux duellistes rompent enfin le contact visuel. Depuis quelque temps, le torchon brûlait entre les deux femmes. Si c'était agi d'homme, les coups n'auraient sûrement pas tardé à pleuvoir.
« Sois sur tes gardes, Egwene !»
dit Rand.
« Soyez tous vigilants !»«
Les Shaido ne parviendront pas à troubler les Aes Sedai !»
souffla Amis.
« Idem pour moi, pour Meleyn ou pour Beyr. Certaines choses dépassent même les Shaido. »«
Soyez vigilants, c'est tout !»
s'écria Rand. Il regretta aussitôt une véhémence qui n'était pas dans ses intentions. Aussi surpris que les autres, même Rouark le regarda. Il ne comprenait pas, et il ne se sentait pas le cœur de tout leur dire. Pas encore. Qui déclencherait en premier son piège ? Il devait risquer la vie de ses compagnons aussi bien que la sienne.
« Et moi, Rand ?»
demanda soudain Matt. Jouant distraitement avec une pièce d'or, il ajouta.
« Tu vois une objection à ce que je t'accompagne ? C'est ta volonté ? J'aurais cru que tu resterais avec les colporteurs. »
Matt regarda les chariots, puis ses yeux se portèrent sur les Shaido voilés de noir.
« Si tu te fais tuer, je crains qu'il ne soit pas facile pour les survivants de ficher le camp d'ici. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, tu t'arrangeras pour que j'accroche au fond de la casserole. »
Matt s'interrompit, fit la moue, puis marmonna.
« Dovienia. »
Un mot d'ancienne langue que Rand avait déjà entendu dans la bouche de son ami. Selon l'âne, ça signifiait « chance ». Joignant le geste à la parole, Matt lança sa pièce en l'air. Mais quand il tenta de la rattraper, elle lui échappa des doigts et tomba sur le sol. Miraculeusement, elle atterrit sur la tranche, dévala la pente, négocia acrobatiquement tous les reliefs et les creux du terrain et, brillant au soleil, s'immobilisa uniquement quand elle eut atteint les chariots.
« Que la lumière me brûle ! Rand, tu n'aurais pas dû faire ça !»
Se penchant, Isandre ramassa la pièce, la tint entre le pouce et l'index, et leva les yeux vers le sommet de la butte. Kadere, Keilé et Nathael imitèrent la jeune femme.
« Tu peux me suivre, Matt ?»
lâcha Rand.
« Rouark, le moment est-il venu ?»
Le chef des Tardad jeta un coup d'œil par-dessus son épaule.
« Oui, c'est exactement maintenant. »
Derrière l'aïel, des cornemuses se mirent à jouer une lente mélodie. Des voix s'élevèrent presque aussitôt. Chez les aïels, les garçons cessaient de chanter dès qu'ils atteignaient l'âge adulte, sauf en des occasions très précises. Les chants martiaux faisaient partie de ces exceptions, avec les lamentations pour les frères d'armes défunts. Des promises participaient sûrement à ce chœur, mais les voix masculines couvraient les leurs. « Lave tes lances dans le sang. Qui donc redoute de mourir ? Lave tes lances dans le sang. Nul guerrier dont j'ai souvenir. » Sur les deux flancs, derrière Rand, des Tardades apparurent, courant en deux colonnes au rythme de leur chanson. Lance au poing, le visage voilé, il ressemblait à une grande vague déferlant vers les montagnes. « Lave tes lances dans le sang, tant que la vie coule en ton corps.
lave tes lances dans le sang jusqu'au rivage de la mort.
« On y va ?»
demanda Rand. Il n'attendit pas l'assentiment de Rouark pour talonner J.A.D.N. et commencer à descendre la pente. Comme une seule femme, Adeline et les autres promises l'entourèrent. Matt hésita un peu avant de suivre le mouvement. En revanche, Rouark et tous les chefs de clan, chacun avec les 10 garants de son honneur, emboîtèrent le pas à l'étalon tacheté. À mi-chemin des pavillons de la kermesse, Rand jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Moiraine et Gwen et Lan n'avaient toujours pas mis pied à terre. Avienda, elle, s'était jointe aux 3 matriarches. Et bien entendu, tout ce monde le regardait. À force, il avait fini par oublier ce que ça faisait de ne pas être la cible de tous les regards. Alors qu'il arrivait à la hauteur des pavillons, une délégation vint à sa rencontre. Une 10aine de femmes en jupes et chemisiers laissées de bijoux en or et en ivoire, et le même nombre d'hommes en cas d'insort, mais sans autre arme qu'un couteau à la ceinture, et encore bien plus petit que celui de Rouark. Semblant ignorer les tardades voilées qui formaient un immense demi-cercle derrière Rand, ses aïels lui barrèrent le chemin, le forçant à s'arrêter. « Lave tes lances dans le sang, cette existence n'est qu'un rêve. Lave tes lances dans le sang, et tous les songes un jour s'achèvent. »
« Je ne m'attendais pas à ça de ta part, Rouark. »
dit un homme aux cheveux blancs et au corps massif. Massif, pas gras. À ce jour, Rand n'avait jamais vu un aïel obèse. Ce guerrier était une montagne de muscles.
« Venant des Shaido, c'était déjà étonnant. Mais toi... »«
Et t'en changes, Manduin. Depuis quand les Shaido sont-ils ici ?»«
Le lever du soleil. Qui peut dire pourquoi ils ont voyagé pendant la nuit ?»
Manduin regarda Rand, le front plissé, puis ses yeux glissèrent sur Matt.
« Les temps changent et ils sont bizarres, Rouark. »«
Qui est ici, à part les Shaido ?»«
Nous, les Gauchiennes, sommes arrivés les premiers. Puis ce fut le tour des Shaarad. »
Prononcer le nom de ses ennemis ancestraux sembla laisser un goût amer dans la bouche de Manduin.
Les Charin et les Tomanele ont suivi. Puis, comme je te l'ai dit, les Shaido. Sevana a convaincu les chefs d'entrer dans la Coupe d'Or, mais ça ne fait pas longtemps. Baël ne voyait aucune raison d'organiser une rencontre aujourd'hui. Et il n'était pas le seul à penser ça.
Une femme d'âge moyen au large visage, les cheveux encore plus blonds que ceux d'Adeline, plaqua les poings sur ses hanches dans un concert de cliquetis d'or et d'ivoire. À elle seule, elle portait plus de bijoux qu'Amis et Liane réunis.
Nous avons entendu dire que celui qui vient avec l'aube est sorti de Ruidéan.
Comme tous ses compagnons, la femme considérait pensivement Matt et Rand, ces deux étrangers venus de terre mouillée.
Rouark, on murmure que l'avènement du Karakarn est pour aujourd'hui, quand toutes les tribus seront arrivées.
Quelqu'un vous a répété une prophétie dans ce cas,
dit Rand. Il talonna J.A.D.N. et les aïels s'écartèrent.
« Dovienia, »
marmonna Matt.
« Mia Dovienia Nesodin Soende. »
Quoi qu'ait voulu dire ces quelques mots, le jeune homme était bouleversant de conviction. Les deux colonnes de Tahardad encerclaient désormais les Shaido, les défiant à quelques centaines de pas de distance. Toujours voilés, le chant montant de leur gorge comme une litanie, les guerriers de Rouark ne faisaient aucun geste menaçant. Mais ils étaient là, 15 ou peut-être 20 fois plus nombreux que les Shaido, et leur seule présence avait de quoi faire réfléchir le guerrier le plus impétueux. « Lave tes lances dans le sang, jusqu'à ce que l'ombre pâlisse. Lave tes lances dans le sang, jusqu'à ce que l'eau se tarisse. Lave tes lances dans le sang, quand donc reviendras-tu chez toi? Lave tes lances dans le sang, jusqu'au moment de ton trépas. » En approchant des Shaido, Rand vit que Rouark portait une main à son voile pour le relever.
« Non, Rouark, nous ne sommes pas ici pour les combattre. »
Une façon de dire qu'il fallait empêcher un massacre, si c'était possible. Mais Laiel comprit tout autre chose.
« Tu as raison, Randaltor. Nous ne ferons pas cet honneur au Shaido. »
Laissant son voile où il était, Rouark cria.
« Aucun honneur pour les Shaido !»
Rand ne tourna pas la tête, mais il aurait juré que des milliers de voiles s'abaissaient autour de lui.
« Par le sang et les cendres !»
éructa Matt.
« Oui, le fichu sang et les fichus cendres !»
Lave tes lances dans le sang. « Jusqu'à ce que le soleil gèle. Lave tes lances dans le sang, jusqu'à ce que l'onde ruisselle. » En face de Rand, les Shaido s'agitèrent nerveusement. Quoique Kuladin et Sevana leur aient dit, il leur suffisait de compter pour comprendre. Même si ça violait toutes les coutumes, affronter Rouark, les chefs de clan et leur escorte était une chose, et en découdre avec des milliers de Tahardad en était une autre. Lentement, les guerriers voilés s'écartèrent de l'entrée du défilé pour laisser passer Rand et ses compagnons. « Lave tes lances dans le sang, lave-les tant que ton cœur bat. Lave tes lances dans le sang, ainsi leur pointe brillera. » Une fois que Rand fut dans le défilé qui serpentait entre les parois rocheuses de deux montagnes, le chant devint un murmure à ses oreilles. Bientôt, il n'y eut plus aucun bruit, à part celui des sabots sur la pierre et le crissement du cuir des bottes à Yel. Puis le passage, brusquement, déboucha sur Al-Qaïrdal. Rand vit tout de suite pourquoi le canyon était appelé une coupe. En revanche, pas l'ombre d'un rapport avec l'or. Parfaitement rond, il était doté sur toute sa périphérie de parois inclinées, sauf à l'extrémité opposée à l'entrée où la muraille convexe évoquait un fer de lance ou la pointe d'une vague pétrifiée. Sur les pentes, des aïels étaient réunis par groupes, davantage de groupes qu'il y avait de tribus à l'évidence. Et les Tahardad qui accompagnaient les chefs de clan se dirigèrent tous vers l'une ou l'autre de ces assemblées. D'après Rouark, pour assurer l'harmonie et la paix, il était très efficace de regrouper les aïels par ordre guerrier. Seuls les boucliers rouges et les promises de la lance avancèrent avec Rand, Rouark et les autres chefs Tahardad. Les chefs de clan des autres tribus étaient assis en tailleur devant une corniche située sous la pointe de la vague. Six petits groupes, dont un composé de promises, se tenaient entre les chefs et la corniche. Logiquement, il devait s'agir des aïels chargés de l'honneur des chefs de tribus. Mais pourquoi six, alors que cinq tribus seulement étaient présentes? Les promises devaient être là pour Sevana, même si Avienda avait agressivement précisé que la veuve du chef des Shaido n'avait jamais appartenu au phare d'Araismaï. Mais l'escorte surnumérèrent. Rand remarqua qu'un des groupes comptait 11 hommes et non 10. Apercevant une tête outrageusement rousse, il n'eut pas besoin de plus pour deviner que l'homme en trop se nommait Kouladin. Sur la corniche, une femme aux cheveux blonds, parée d'autant de bijoux que celle de la kermesse, contemplait l'assemblée, un châle gris recouvrant ses épaules et ses bras. C'était Sevana, bien entendu. Debout aux côtés de 4 chefs de tribus des armées, n'était un long couteau à la ceinture, parmi lesquels figurait un des hommes les plus grands que Rand ait jamais vu. Selon la description de Rouark, que le gaillard avait dépassé d'une bonne tête, il s'agissait de Baël, le chef des Gauchiennes. Sevana parlait, la configuration particulière des lieux faisant porter sa voix dans les moindres recoins.
« Qu'il soit autorisé à parler !»
était-elle en train de dire d'un ton exalté. La tête haute, le dos bien droit, elle parvenait presque à paraître plus grande que ses compagnons.
« Je l'exige comme un droit. Jusqu'à ce qu'un nouveau chef soit choisi, Souladric et les Shaido parlent par ma bouche. J'exige ce qui me revient de droit. »«
Maîtresse, dis-toi. Souladric parlera par ta bouche jusqu'à ce qu'un nouveau chef soit choisi, comme tu l'as toi-même précisé. »
L'homme aux cheveux blancs qui venait d'intervenir d'un ton irascible était Han, le chef des Tomanelli. Le teint mat et la peau parcheminée, il aurait été plus grand que la moyenne à 2 rivières. Pour un aïel, il était plutôt petit et même un peu trapu.
« Tu connais parfaitement bien les droits d'une maîtresse du toit, »
continua-t-il.
« Mais tu as, semble-t-il, des lacunes en ce qui concerne les chefs de tribu. Pour avoir le droit de s'exprimer ici, il faut être entré à Ruidehan. Et l'homme que tu voudrais entendre parler... »
Au ton de sa voix, Han était fort mécontent de toute cette histoire. Cela dit, il avait l'air d'un homme qui ne se réjouissait pas souvent.
« Celles qui marchent dans les rêves l'ont dit à nos matriarches. Kouladin n'a pas eu le droit d'entrer à Ruidehan. »
Kouladin brailla des invectives incompréhensibles. À l'évidence, la configuration des lieux était favorable aux seuls orateurs qui se tenaient sur la corniche. Ses cheveux roux déjà grisonnants, Erim, le chef des Tcharin, interrompit sans ménagement Kouladin.
« N'as-tu donc aucun respect pour les coutumes et les lois, Shaido? Et qu'as-tu fait de ton honneur? Respecte ce lieu en te taisant. »
Sur les pentes du canyon, des centaines de têtes s'étaient tournées pour voir qui étaient les nouveaux venus. Découvrant 2 étrangers des terres mouillées, à cheval, l'un étant escorté par des promises, les aïels se flanquèrent force coup de coude, puisque murmurer leur était interdit. Mal à l'aise, Rand se demanda combien de personnes le regardaient. 3 000? 4 000? Davantage encore d'aïels silencieux?
« Nous sommes ici pour entendre une formidable nouvelle, »
dit Baël.
« Et on nous l'annoncera dès que toutes les tribus seront présentes. »
Les cheveux roux foncés du chef des Gauchiennes grisonnaient aussi. Parmi les chefs de tribus, il n'y avait pas d'homme jeune, mais la taille de Baël et sa voix profonde attirèrent tous les regards sur lui.
« Oui, quand toutes les tribus seront là. Si Sevana nous a fait venir uniquement pour entendre Kouladin, je crois que je vais retourner sous ma tente et attendre bien à l'ombre. »
Chef des Shaharad, les ennemis jurés des Gauchiennes, Jeran, aux cheveux châtains argentés par endroits, avait la minceur élégante et mortelle d'une lame. Quand il prit la parole, il ne regarda aucun des autres chefs debout sur la corniche.
« Pourquoi retourner sous nos tentes? Puisque Sevana nous a réunis Profitons-en pour discuter d'un sujet à peine moins important que la grande nouvelle tant attendue. Je veux parler du partage de l'eau, en particulier au guet de Kretchen.
L'air menaçant, Baël se tourna vers son ennemi héréditaire.
« Tas d'imbéciles !»
s'écria Sevana.
« J'en ai assez d'attendre, et... »
À cet instant, les Aiel debout sur la corniche s'aperçurent qu'il y avait de nouveaux arrivants. En silence, ils les regardèrent approcher, les chefs de tribu se rembrunissant, tandis que Sevana continuait à fulminer. Encore loin de l'âge moyen, c'était une belle femme, et se tenir à côté d'hommes déjà vieillissants lui donnait quasiment l'air juvénile. Une belle femme, certes, mais avec une bouche vorace. Tous les chefs de tribu incarnaient la dignité, même Han à sa façon renfrognée, alors que Sevana avait un regard calculateur. Tranchant avec toutes les aïelles que Rand avait vues, elle portait un chemisier blanc assez largement ouvert pour offrir un aperçu saisissant sur son cou entouré d'une multitude de colliers et sur sa poitrine. Sans connaître leur titre, Rand aurait vu au premier coup d'œil que les hommes étaient très importants. Une affaire d'allure sans doute. Si Sevana était une maîtresse du toit, elle n'avait aucun rapport avec Lyanne et sa classe naturelle. Rouark remit ses lances, sa rondache, son arc et son carquois à ses boucliers rouges. Puis il approcha de la corniche et y monta. Tout en observant les aïels qui l'entouraient, Rand tendit les rênes de J.A.D.N. à Matt.
« Que la chance soit avec nous !»
marmonna le jeune Flaubert. Utilisant sa selle comme un marchepied, Rand monta directement sur la corniche, un exploit salué par une vague de murmures qui fit tout le tour du canyon.
« Rouark !»
grogna Han.
« Comment oses-tu amener un étranger des terres mouillées ? Si tu répugnes à le tuer, au moins force-le à descendre de cette corniche. Cet homme, Rand Altor, est venu pour parler aux chefs de tribu. Celles qui marchent dans les rêves ne vous ont pas dit qu'il m'accompagnerait. »
Les murmures enflèrent.
« Rouark, Mélaine m'a dit bien des choses. »
lâcha Baël en foudroyant Rand du regard.
« Celui qui vient avec l'aube est sorti de Ruidéan. Tu ne veux pas dire que cet étranger... »
Incrédule, Baël ne finit pas sa phrase.
« Si l'homme des terres mouillées a le droit de parler !»
intervint Sevana.
« Kouladin doit l'avoir aussi !»
Elle leva une main à la peau de pêche. Empourpré de colère, Kouladin monta à son tour sur la corniche. Han explosa.
« Descends, Kouladin ! Voir Rouark violer nos coutumes ne te suffit pas ! Il faut que tu le limites ! Il est temps d'en finir avec des coutumes obsolètes !»
rugit Kouladin tout en retirant sa veste ocre. Sur la corniche, crier ne servait à rien, mais il ne baissa pas le ton pour autant.
« Je suis celui qui vient avec l'aube !»
Relevant les manches de sa chemise au-dessus de ses coudes, il leva les bras, dévoilant les deux dragons qui étaient gravés. Les écailles rouges et jaunes, les pattes terminées par des griffes d'or, la crinière dorée couvrant le dos des poignets, tout y était. Les répliques parfaites des dragons de Rand.
« Je suis le Karakarn !»
Des acclamations firent vibrer les parois du canyon. Bondissant sur leurs pieds, tous les aïels lançaient des vivates, y compris les chefs de clan, à l'exception des Tahardad, Notarand. Les chefs de tribu semblaient abasourdis, Rouark tout autant que les autres. Adeline et ses neuf promises brandissaient leurs lances comme si elles s'attendaient à devoir très bientôt s'en servir. Un œil sur la sortie, Matt enfonça bien son chapeau sur sa tête, puis il approcha au maximum de la corniche et fit discrètement signe à Rand de sauter en selle. Avec un sourire triomphant, Sevana tira sur son châle, tandis que Kouladin avançait vers le bord de la corniche, les bras toujours levés.
« Comme l'annoncent les prophéties, je suis le héros du changement. Nous allons traverser de nouveau le mur du dragon et reprendre ce qui nous appartient. Les hommes des terres mouillées sont des chiffres molles, mais ils connaissent la prospérité. Vous souvenez-vous du fantastique butin que nous avons rapporté la dernière fois ? Eh bien là, nous nous emparerons de tout. Oui, de tout, oui !»
Rand n'écouta plus la tirade de son rival. Il avait tout envisagé, sauf ça.
Comment ?
Cette question tournait en boucle dans sa tête. Pourtant, il était incroyablement calme. Retirant sa veste rouge, il hésita un moment, récupéra l'angréal dans sa poche, le fixa à sa ceinture, laissa tomber le vêtement et avança vers le bord de la corniche en défaisant lentement les lacets qui fermaient les manches de sa chemise. Puis il leva les bras et le tissu glissa, dévoilant sa peau. Mais pas qu'elle. Les aïels eurent besoin d'un moment pour voir les dragons enroulés autour des bras de Rand, leurs écailles brillant au soleil. Du coup, le silence ne se fit pas en une seule fois, mais petit à petit, Sevana en resta bouche bée. À l'évidence, elle n'était pas informée. Certain que Rand ne le suivrait pas si vite, Kouladin n'avait pas cru bon de lui dire que quelqu'un d'autre portait les marques.
Comment a-t-il fait ?
L'imposteur pensa avoir du temps. Une fois sa fausse identité bien établie, il lui aurait été facile de faire passer Rand pour un tricheur.
Oui, mais comment a-t-il fait ?
Si la maîtresse du toit de la forteresse Comarda était stupéfaite, les chefs de tribu ne valaient guère mieux. Deux hommes portant les marques. Pourtant, selon la prophétie, il ne pouvait y en avoir qu'un. Kouladin continuait son discours, agitant les bras pour que tout le monde voie bien.
« Ne nous arrêterons pas au pays des violeurs de serments. Toutes les terres seront nôtres, jusqu'à l'océan d'Arit. Que peuvent les chiens des terres mouillées face à... »
Prenant soudain conscience du silence de mort qui régnait dans le canyon, mais qu'était-il advenu des acclamations ? L'usurpateur comprit immédiatement ce qui se passait. Sans même regarder Rand, il cria.
« C'est un étranger des terres mouillées ! Voyez ses vêtements ! Un étranger ! » !»«
Un homme des terres mouillées, oui !»
approuva Rand. Il ne leva pas la voix, confiant le soin de l'amplifier à la configuration particulière du canyon. D'abord surpris, Kouladin eut un grand sourire, qui s'effaça dès que le jeune homme enchaîna.
« La prophétie de Ruidéan parle d'être né du sang, si je ne me trompe. Ma mère était Shayel, une promise du clan Tchoumaï d'État Ardad. »
« Qui était-elle en réalité ? Et d'où venait-elle ? » ?»«
Mon père, Janduin du clan de la Montagne de Fer, était en son temps le chef d'État Ardad. »
« Mon père se nomme Tam Altor. C'est lui qui m'a trouvé, élevé, et donné tout son amour. »
« Né du sang, mais pas élevé par les Aiel. Voilà ce que dit la prophétie. Où les matriarches m'ont-elles cherché ? Dans les forteresses de la Tierce Terre ? Non. De l'autre côté du mur du dragon, là où j'ai grandi. Exactement comme le disaient les prédictions. »
Baël et les trois autres chefs acquiescèrent sans grand enthousiasme. Kouladin arborait lui aussi les dragons, et à choisir, ils auraient préféré que le Karakarn soit un homme qu'ils connaissaient. Le visage dur, Sevanna ne dissimulait pas que son siège était fait. Marque ou pas marque, elle soutiendrait Kouladin. Sa confiance encore intacte, l'imposteur eut un regard méprisant pour Rand.
« De quand date la prophétie de Ruidéan ?»
Toujours persuadé que ça changeait quelque chose, il continuait à crier.
« Qui peut dire quelles altérations ont subi ces paroles ? Ma mère était une farde d'Areis Mai avant de renoncer à la lance. Comment savoir ce qui a changé dans ses prédictions ? Ou ce qu'on a volontairement modifié ? On dit que nous servions jadis ces Aes Sedai. J'affirme qu'elles ont comploté pour nous avoir de nouveau sous leur coupe. Cet étranger fut choisi parce qu'il nous ressemble. Mais il n'est pas de notre sang. Il est venu avec des Aes Sedai qui le tenaient en laisse. Et les matriarches ont accueilli ces femmes comme si elles étaient leurs premières sœurs. Vous savez tous que les matriarches peuvent faire des choses incroyables. Celles qui marchent dans les rêves ont utilisé le pouvoir de l'unique pour me tenir éloigné de cet étranger. Le pouvoir de l'unique, comme les Aes Sedai, d'après ce qu'on dit. Ne comprenez-vous pas que ces sorcières ont amené ici un imposteur pour nous entraîner dans un piège ? Avec la complicité de certaines matriarches ! Un tissu d'absurdité !
Explosa Rouark, avant de venir se camper à côté de Rand, devant l'assemblée pour l'instant silencieuse.
Kouladin n'est jamais allé à Ruidéan. J'ai entendu les matriarches lui en refuser le droit. Rand Altor, lui, y est allé. Je l'ai vu descendre un versant du mont Chaindaer, puis en revenir avec les marques qu'il vous montre. Pourquoi les matriarches m'ont-elles refusé le droit d'aller à Ruidéan ?
Rugit Kouladin.
Parce qu'elles ont obéi aux ordres des Aes Sedai. Rouark se garde bien de vous dire qu'une des Aes Sedai a descendu le versant du mont avec l'étranger. C'est comme ça qu'il a obtenu les marques. Grâce à la sorcellerie de ses femmes. Mon frère, Mouradin, est mort au pied du mont Chaindaer. Lâchement assassiné par cet étranger et l'Aes Sedai Moiraïn. Et les matriarches ? Parce qu'elles nous ont trahis, les ont laissés libres, ces meurtriers. Une fois la nuit tombée, je suis allé à Ruidéan. Je le révèle aujourd'hui parce que c'est l'endroit approprié. Le lieu où le Karakarn doit se révéler à son peuple. Je suis le Karakarn !
Des mensonges étayés par des demi-vérités. Sûr d'avoir réponse à tout, Kouladin se croyait invincible.
Tu es allé à Ruidéan sans l'autorisation des matriarches ?
Demanda Han, plus renfrogné que jamais. Les bras croisés, l'immense Baël semblait tout aussi désapprobateur. Erim et Jeran, peut-être un peu moins choqué, paraissait loin d'être convaincu. La main sur le manche de son couteau, Sevanna foudroya Han du regard, comme si elle rêvait de lui en enfoncer la lame entre les omoplates.
« Oui, sans leur autorisation, »
confirma Kouladin.
« Celui qui vient avec l'aube apporte le changement. Voilà ce que dit la prophétie. Les lois et les coutumes inutiles seront balayées, et c'est moi qui le ferai. Ne suis-je pas arrivé ici en même temps que l'aube ?»
Les chefs de tribu hésitaient toujours, comme tous les autres Aiel présents dans le canyon. Si Rand n'emportait pas leur adhésion, il ne sortirait sûrement pas vivant d'Al-Kaïrdal. Voyant que Matt désignait de nouveau la selle de Jaden, le jeune homme ne prit même pas la peine de faire non de la tête. Sauver sa peau n'était pas la priorité. Il avait besoin de ce peuple et de sa fidélité. Il devait avoir avec lui des partisans qui le suivraient par loyauté, non pour se servir de lui ou obtenir on ne savait quelle faveur. C'était indispensable.
Ruidehan, tu es allé à Ruidehan, Kouladin ? Qu'as-tu donc vu là-bas ?
Tout le monde sait que ça doit rester secret.
Nous pouvons en parler en privé,
dit Erim.
Comme il convient, et...
Kouladin explosa de nouveau.
J'en parlerai à personne. Ruidehan est un lieu sacré. Ce que j'ai vu est sanctifié, et je suis sanctifié.
Il exhiba une fois de plus les dragons.
Voilà ce qui fait de moi un saint.
Près d'Avendessora, j'ai avancé au milieu de colonnes de verre,
dit Rand, sa voix se répercutant partout dans le canyon.
À travers les yeux de mes ancêtres, j'ai vu l'histoire des Aiel. Et toi, Kouladin, qu'as-tu appris à Ruidehan ? Moi, je n'ai pas peur d'en parler. Et toi ?
Le Shaido tremblait de rage, le visage presque aussi écarlate que ses cheveux. Baël et Rim, Jeran et Han échangèrent des regards hésitants.
Nous devons continuer en privé,
murmura Han. Kouladin avait perdu tout avantage auprès des chefs. S'il était trop excité pour s'en apercevoir, Sevanna n'avait pas les yeux dans sa poche.
C'est Rouar qui lui a dit tout ça,
accusa-t-elle.
Une de ses épouses marche dans les rêves. Une complice des Aes Sedai. Oui, Rouark lui a raconté tout ça.
Rouark n'est pas un homme à commettre pareille indignité,
s'écria Han.
C'est un chef de tribu et un homme d'honneur. Sevanna, ne parle pas de ce que tu ignores. N'aie pas peur d'en parler,
beugla Kouladin.
Aucun homme ne peut impunément m'accuser de lâcheté. Moi aussi, j'ai vu le passé à travers les yeux de mes ancêtres. Et je nous ai vus entrer dans la tierce terre. Et la gloire, oui, j'ai vu la gloire que je nous rendrai bientôt.
J'ai vu l'âge des légendes,
surenchérit Rand.
Et le début du voyage des Aiel vers la tierce terre.
Rouark prit le bras du jeune homme, mais celui-ci se dégagea sans ménagement. Cet instant était écrit depuis le jour où les Aiel s'étaient réunis pour la première fois devant Ruidehan.
J'ai vu les Aiel, à l'époque où ils se nommaient les Dashain, et obéissaient au paradigme de la feuille.
Non ! Non ! Non !
Ce cri jaillit en même temps de milliers de gorges. Brandis vers le ciel, des centaines de pointes de lance reflétèrent la lumière du soleil. Quelques chefs de clan Tahardad criaient avec les autres Aiel, oubliant leur loyauté envers Rand. Pétrifié, Adeline regardait le jeune homme comme s'il avait perdu l'esprit. Désignant la selle de Jaden, Matt cria à son ami quelques mots qui furent noyés dans le vacarme.
« Menteur !»
lança Kouladin. Son cri, à la fois rageur et triomphal, se répercuta dans tout le canyon, couvrant le grondement des Aiel. En secouant la tête, Sevanna se précipita vers l'imposteur. À présent, elle devait se douter qu'il mentait, mais si elle parvenait à le faire taire, ils avaient encore une chance de s'en sortir. Comme Rand l'espérait, Kouladin repoussa la maîtresse du toit. Cet homme savait que son rival était allé à Ruidehan, et de toute évidence, il ne devait pas croire lui-même à la moitié des fadaises qu'il racontait. Mais comment aurait-il pu accepter la révélation que Rand venait de faire ?
Il vient de se trahir ! Nous avons toujours été des guerriers ! Depuis le commencement des temps !
Le grondement augmenta, les lances se faisant menaçantes. Mais Baël, Erim, Jeran et Han se taisaient, car ils savaient, eux. Sans songer à les regarder, Kouladin montra de nouveau ses bras aux Aiel saisis de vénération devant leur caracarne.
« Pourquoi ?»
souffla Rouark à l'intention de Rand.
« N'as-tu pas compris pourquoi il est interdit de parler de Ruidehan ? Comment affronter une si terrible vérité ? Savoir que nous étions jadis l'opposé de ce que nous admirons et respectons, que nous ressemblions aux égarés, ce qu'on appelle chez toi les Tuatahan. Ruidehan tue les Aiel qui ne peuvent pas affronter cette révélation. Et voilà que tu la clames à tous les vents. C'est irréversible, Randaltor. La rumeur se répandra. Et combien d'Aiel y survivront ?
Il vous ramènera en arrière et vous détruira.
J'apporte le changement,
dit tristement Rand.
Pas la paix, mais la tourmente.
La destruction me suit partout où je vais. Y aura-t-il un jour un lieu que je ne ravagerai pas ?
Ce qui doit être advient, Rouark. Je ne peux rien contre ça.
Ce qui doit être advient,
murmura Laiel après un long silence. Sans voir que les chefs de tribu le regardaient sombrement, Kouladin paradait toujours, parlant aux Aiel de gloire et de conquête. Consciente que le vent avait tourné, Sevanna respirait très fort, comme si elle allait se sentir mal. Bientôt, elle le devinait, le couperet tomberait. Et il tomba, en effet.
Randaltor,
commença Baël, sa voix forçant Kouladin à ravaler son discours et imposant un silence presque immédiat à la foule. Hochant la tête comme s'il cherchait en vain un moyen d'échapper à tout ça, le chef de tribu marqua une pause pour se racler la gorge. Toujours dans son délire, Kouladin croisa les bras, serein, attendant sans doute que le géant prononce la sentence de mort de l'étranger.
« Randaltor,
reprit Baël,
est le Karakarn, celui qui vient avec l'aube. »
Fou de rage, Kouladin écarquilla les yeux.
« Randaltor est celui qui vient avec l'aube. »
déclara Han, lui aussi à contre-cœur.
« Randaltor est celui qui vient avec l'aube. »
répéta Jeran sans enthousiasme.
« Randaltor est celui qui vient avec l'aube. »
concéda enfin Erim.
« Randaltor !»
annonça Rouark.
« Est celui qui vient avec l'aube. Que la lumière ait pitié de nous. »
Un silence de mort suivit ces déclarations. Sautant de la corniche, Kouladin prit une lance à un de ses Seyadoun et voulut la projeter sur Rand. Mais Adeline bondit sur la corniche, sa rondage déviant l'arme de jet au prix d'un violent impact qui l'envoya presque à la renverse. Alors que la folie se déchaînait dans le canyon, les autres promises Jindo sautèrent sur la corniche pour former avec Adeline une haie protectrice devant Rand. Sevana sauta à son tour de la corniche, approcha de Kouladin et tenta de le retenir par le bras alors qu'il essayait de lancer ses yeux noirs contre les promises de Rand. Avec une dizaine d'autres chefs de clan d'Ardad, Heirn vint épauler les guerrières qui protégeaient le Karakarn. Mais d'autres chefs criaient avec les Aiel qui soutenaient encore Kouladin. Serrant son étrange lance à la hampe noire et au fer en forme d'épée ornée de deux corbeaux, Matt monta plus ou moins souplement sur la corniche en marmonnant ce qui devait être un torrent de jurons en ancienne langue. Rouark et les autres chefs de tribu tentèrent en vain de rétablir l'ordre. Dans le canyon soudain devenu un chaudron en ébullition, Rand vit des voiles noires se lever. Puis une première lance frappa, et une autre encore. Il devait arrêter ça. S'ouvrant au Saïdine, il le laissa déferler en lui jusqu'à ce qu'il ait l'impression de se consumer de l'intérieur, s'il n'implosait pas avant. La souillure se ravageant jusqu'à la moelle des os, il se réfugia dans le vide, autour duquel des pensées se mirent à flotter. L'eau. Dans ce désert où elle était si rare, les Aiel en parlaient presque en permanence. Mais même dans cet air si sec, il y avait un peu d'eau. Sans vraiment savoir ce qu'il faisait, Rand canalisa le pouvoir. Des éclairs déchirèrent le ciel au-dessus d'Al-Kaïrdal, et un vent violent souffla dans le canyon, rugissant assez fort pour couvrir les imprécations des Aiel. Alors que ce vent charriait de minuscules gouttelettes d'eau, quelque chose d'impensable, du jamais vu de mémoire d'homme, se produisit. Une bruine commença à tomber. Dans les tourbillons de vent, alors que les éclairs zébraient follement le ciel, cette ondée se transforma en une véritable pluie, puis en une averse et enfin, en un déluge. Les cheveux trempés, la chemise collée au corps, Rand n'y voyait plus à 10 pas devant lui. Sans avertissement, il fut de nouveau au sec, car un dôme invisible se forma autour de lui, l'isolant de Matt et des Aiel qui le protégeaient. À travers l'eau qui ruisselait sur les parois de cette improbable structure, il vit qu'Adeline tentait de traverser pour le rejoindre. Furieuse, elle martelait de coups de poing l'obstacle dont ses yeux niaient pourtant la présence.
« Un imbécile en chef qui joue avec des crétins !»
lança une voix féminine.
« Tous mes plans sabotés, mes efforts réduits à néant !»
De l'eau coulant encore devant ses yeux, Rand se tourna pour faire face à l'Anfear. Bien entendu, sa robe blanche à la ceinture en tissu argenté était parfaitement sèche, tout comme ses superbes cheveux noirs parés d'étoiles et de croissants d'argent. Le regard brûlant, elle dévisageait Rand avec une fureur qui altérait son incroyable beauté.
« Je n'aurais pas cru que tu te montrerais maintenant !»
dit calmement Rand. Le pouvoir circulant encore en lui, il chevauchait cet torrent tumultueux, s'y accrochant avec un désespoir qu'il prit garde à ne pas laisser transparaître dans sa voix. Sans puiser davantage dans la source authentique, il suffisait d'accepter cette déferlante et d'attendre que ses os menacent d'être réduits en cendres. L'Anfear pouvait-elle le couper du pouvoir alors que le Saïdin rugissait ainsi en lui? Faute de connaître la réponse à cette question, il préférait se laisser carboniser de l'intérieur plutôt que de se fermer à la source.
« Je sais que tu n'es pas seul. Où est-il ? »
L'Anfear eut une moue amère.
Je savais qu'il se trahirait en entrant dans tes rêves. J'aurais pu arranger les choses si ça panique.
Je sais tout depuis le début,
coupa Rand.
Dès le jour où j'ai quitté la pierre de Théar, je m'attendais à une attaque en traître. Dans ce désert, où n'importe qui pouvait voir que j'étais concentré sur Widéan et sur les Aiel. Tu me crois assez bête pour ne pas avoir deviné que certains d'entre vous s'en prendraient à moi ? Mais c'est mon piège, l'Anfear, pas le tien.
Où est-il ?
Les derniers mots étaient sortis de la gorge de Rand comme des cris glaciaux. Autour du vide, Ce néant qui n'en était pas un, cette vacuité emplie de pouvoir, des émotions incontrôlables tourbillonnaient.
« Si tu sais !»
riposta Lanfear.
« Pourquoi l'as-tu fait fuir avec tes discours sur le destin et ton obligation de faire ce qui doit être fait ? J'ai fait venir Asmodéane pour qu'il te forme. Il a toujours été du genre à changer de plan dès la première difficulté. Maintenant, il pense avoir trouvé à Ruidéane quelque chose qui est bien mieux pour lui. Et pendant que tu fais l'andouille ici, il est sur le point de s'en emparer. Les Drakkars, Kouladin, des diversions, pour que tu t'occupes d'autre chose pendant qu'il vérifiait toutes tes données. Mes plans à l'eau simplement parce que tu es têtu comme une mule. Tu sais quels efforts ça me coûtera de le convaincre à nouveau ? C'est le seul possible. Des Mandred, Ravine ou Samael te tueraient avant de t'avoir appris à lever une main. Sauf s'ils pouvaient te tenir en laisse comme un chien docile.
Ruidéane. Oui, bien entendu. Ruidéane. À combien de semaines de voyage ? Mais n'avait-il pas fait quelque chose un jour ? S'il se rappelait comment il s'y était pris.
Tu l'as laissé partir ? Après avoir tant répété que tu voulais m'aider ? Discrètement. Je l'ai toujours précisé. Que peut-il trouver à Ruidéane pour que je prenne le risque d'apparaître au grand jour ? Quand tu décideras d'être de mon côté, il sera temps de réviser ma position. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Loustérine.
Lanfear passa au registre de la séduction, sa moue boudeuse mais charmante et ses grands yeux noirs tels des puits sans fond où il semblait si délicieux de se noyer.
Oui, souviens-toi. Deux formidables Sangreal. Avec eux, ensemble, nous pouvons défier.
Lanfear ne jugea pas utile de continuer. Rand venait de se rappeler ce qu'il avait fait et comment. Utilisant le pouvoir, il plia la réalité, infléchissant une partie de l'espace et du temps. Aussitôt, une porte se découpa dans le dôme devant lui. Une porte, oui, il n'y avait pas d'autre mot. Une ouverture qui donnait sur l'obscurité, et un « autre part » indéfini, mais pourtant délimité.
« Tu n'as pas tout oublié, dirait-on ?»
fit Lanfear. Elle jeta un coup d'œil à l'issue, puis riva un regard soupçonneux sur Rand.
« Pourquoi es-tu si nerveux ? Qu'y a-t-il à Ruidéane ?»«
Asmodéane. »
répondit Rand, sinistre. Un moment, il hésita. Le rideau de pluie l'empêchait de voir autour de lui. Que se passait-il dans la coupe d'or ? Et Lanfear, Lanfear. Hélas, il avait oublié comment il avait fait pour isoler Egwene et Elaine de la source. Et bien entendu, je suis incapable de tuer une femme parce qu'elle me regarde méchamment. C'est une rejetée, bon sang ! Peut-être, mais ça n'était pas plus dans ses cordes que la fois précédente dans la pierre de Théar. Franchissant l'étrange porte, Rand laissa Lanfear sur la corniche et referma le passage derrière lui. Bien sûr, elle n'aurait aucun mal à en ouvrir un autre, mais ça la ralentirait un peu.